Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui aurait fait un excellent critique gastronomique. Bonjour Daniel.
Si tu dis bonjour Philibert, tu sais, c'est jamais trop tard.
C'est clair. Mais Daniel, notre invité du jour n'est pas critique gastronomique, justement, elle est journaliste gastronomique et certainement on va en reparler pendant notre échange. Alors, depuis le succès de son blog En Randonnion, elle a écrit régulièrement pour la presse gastronomique, le magazine Elle ou les magazines Food Pâtisserie, Food Cuisine. Elle a même écrit pour le Fooding et le Guide Michelin. Elle est également chroniqueuse à la télé et parle du bien manger dans l'émission de William Lémergie sur C8. Et comme elle avait un peu peur de s'ennuyer avec toutes ses casquettes, elle écrit également des bouquins sur la bonne bouffe. Parce que d'ailleurs, comme nous, elle adore ce mot. Nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Marchal. Bonjour Raphaël.
Salut Philibert, salut Daniel.
Alors Raphaël, dans cette édition spéciale, on a pris l'habitude de parler de la crise et surtout de l'après-crise. Mm-hmm. Donc dans notre cas, on aimerait beaucoup avoir ta vision de la restauration de demain, par exemple. Mais avant cela, on aimerait comprendre comment tu as vécu ces 2 mois de confinement. Du coup, première question, quel était l'impact de cette crise sur ton activité?
Ah bah énorme. Énorme parce que moi, quasiment tout ce qui occupait les majorités de mes semaines s'est interrompu. Alors d'abord pour une semaine, et puis deux, et puis trois, et puis finalement on reprend qu'en septembre. Je fais référence à l'émission de William Lémergie, et ça c'était 3 jours et demi de travail par semaine pour moi à peu près.
Ah, quand même.
Je me suis retrouvée grosse crise de panique, surtout que ça m'était encore pas arrivé. J'ai toujours eu un agenda bien rempli, donc ça a été une grosse frayeur au départ. Et puis comme tout, en fait, l'humain a une capacité d'adaptation assez folle. Ouais. Et j'y croyais pas trop, mais finalement, je m'y suis faite. Alors bon, financièrement, c'est clair que c'est pas drôle, mais c'est le jeu d'être indépendant. Et je ne changerai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai que il y a des côtés frustrants. Et puis après, la bonne nouvelle, c'est que tu disais justement que j'écrivais pour l'EL, Food Pâtisserie, Food Cuisine, et j'ai eu de la chance d'être entourée de rédactrices en chef qui ont été super et qui m'ont tout de suite donné beaucoup plus de piges et beaucoup plus d'articles et des hors-séries et des numéros spéciaux et tout. Donc ça, c'est formidable, ça m'a bien occupée. Et puis bah, finalement, ça a été un temps assez précieux parce que c'est rare d'avoir des journées libres. Mais au début, grosse panique, ouais. Voilà.
Et Raphaël, toi, tu as quel statut en fait? Tu es salarié? Tu étais salarié chez C8 ou tu es indépendante?
Non, je suis indépendante. Moi, je suis en entreprise individuelle depuis janvier 2016, EI.
D'accord.
Donc en fait, je suis prestataire chez Canal, donc ils me doivent rien. En fait, moi, je les facture après chaque émission, selon s'il y avait un reportage monté ou pas, parce que j'incarne les reportages et je les monte avec un monteur évidemment. Et après les plateaux en direct, donc c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup en moins. Et je ne suis pas éligible aux aides de l'État non plus, pour tout vous dire.
Ouais. Mais c'est entre guillemets intéressant. Je suppose que c'est difficile pour toi de vivre ça d'un point de vue financier. Mais je pense que tu es la première invitée dans ces podcasts avec un statut indépendant. Et c'est quand même une catégorie. Hein. Moi, je connais parce que ma femme, elle est indépendante aussi. Et moi, je l'étais. C'est une catégorie que pendant cette crise a quand même pas mal souffert et peut-être était un peu moins protégée que d'autres. Et je pense que parmi nos auditeurs, on en a beaucoup d'indépendants, des freelances, des graphistes, bref. Tu as des conseils que tu donnerais peut-être à d'autres indépendants? Comment s'en sortir dans cette période assez compliquée?
L'avantage à être indépendant, c'est que n'importe quelle mission qui tombe, on peut la prendre parce qu'on n'est pas, moi, j'ai pas de clause d'exclusivité, j'ai pas de problème de concurrence. Donc, si là, quelqu'un me passe un coup de fil et me dit, on aimerait te confier... je sais pas moi, tel bouquin, il n'y a pas de problème, je peux le facturer dans la seconde et rentrer des sous. Donc, je pense que le gros avantage, c'est la liberté que ça offre. Et puis moi, c'est vraiment un statut que j'ai choisi et que j'assume. Il y a rarement des mauvais côtés, je trouve. Là, c'est la première fois depuis 2016, donc il fallait bien que ça arrive. Mais mon seul conseil, c'est de de se dire que on passe notre temps à se dire ah si j'avais du temps je ferais ça et si j'étais plus libre je ferais ça et là en fait on est indépendant mais en fait dans le quotidien on est un peu salarié de plein de mini boîtes différentes. Moi j'ai l'impression d'avoir plein de patrons et d'être encore plus salarié qu'avant, tu vois. Et là c'est vrai que d'avoir eu 2 mois et demi où c'est vraiment toi qui décides de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de ce que tu rentres, de tout ça, bah ça a finalement des avantages à condition d'avoir l'esprit plutôt libre et de pas être d'une nature à stresser beaucoup parce que c'est jamais très agréable. Mais moi ça m'a permis par exemple d'apprendre à monter. Tu vois, ça fait des années que je dis qu'il faut que je sache le faire et que j'ai pas le temps et que je me dis que de toute façon on n'est pas obligé de tout savoir faire dans la vie et tout. Bon bah c'est pas grand chose, mais ça me servira et au moins ça s'est fait. Et puis bon, la vie va reprendre, hein, mais en tout cas pas une fois. Même voilà quand ça a été un peu chaud sur certains de ces derniers mois financièrement, à aucun moment je me suis dit putain en fait c'est vraiment trop casse-gueule comme statut. Je vais repostuler quelque part et me retrouver un petit nid bien au chaud, quoi. Donc ça
t'a amené de la souplesse et ça te permet de rebondir, de tester d'autres choses. Ça te donne du temps pour te former. Quand tu parles de montage, et tu montes pourquoi ? C'est des vidéos pour les réseaux sociaux ?
Oui,
c'est des vidéos pour.
Je suis entraînée à monter mes vidéos. C'est pas du tout des trucs pour le boulot. Tu vois, je suis pas encore monteuse pro. C'est pas quelque chose que je pourrais facturer. Mais au moins, si un jour on me repropose des missions de vidéos et qu'ils veulent que j'inclue au devis le montage, et bah potentiellement c'est quelque chose que je pourrais faire. Alors c'est pas dire que je le ferais parce que je suis pas sûre d'être suffisamment intéressée par la chose et je suis pas sûre que ça vaille le coup et tout, mais sans cette période c'est sûr que j'aurais jamais pris le temps d'apprendre ça, donc j'imagine que c'est plutôt positif.
Ouais, et puis en plus c'est certainement, enfin si tu t'es orienté vers ça, c'est que ça doit être un sujet que tu t'aimes bien, que tu kiffes, hein, de créer des contenus et de monter des contenus visuels et vidéos.
Ouais, carrément.
Si on revient à la presse, donc tu nous disais que bon évidemment C8 ça s'est arrêté, mais sur les supports papier avec les magazines Food Pâtisserie par exemple, ça t'as continué. Mais est-ce que t'as travaillé différemment, t'as travaillé plus pour certains supports, tu bosses toujours pour Elle par exemple, je crois. Est-ce que t'as continué à faire des papiers sur des lieux alors que malheureusement t'es à distance? Comment t'as réagi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'écrire cette crise?
En fait, ça a plus changé dans la façon dont les gens me répondaient. Moi, souvent, quand j'interview un chef, parce que c'est quand même beaucoup des chefs dans mes papiers, que ce soit pour Food Pâtisserie ou Food Cuisine ou le L, il me prend entre deux services, on n'a pas trop de temps devant nous, il est dans ses cuisines, il répond au téléphone, il met sur pause, il me fait patienter parce qu'il y a une livraison qui arrive et tout. Donc, c'est difficile d'avoir des interviews de fond avec, tu vois, des confessions, des émotions et tout ça, quand t'es dans un cadre très speed et tout. Et là, j'ai fait pendant le confinement une bonne trentaine d'interviews en tout, et notamment Bertrand Grébeau, Jérôme Jagel de l'Alchemil en Alsace, Yann Couvreur, etc. Et en fait, c'est drôle parce que ça fait des années que j'évolue dans le même milieu qu'eux et que j'ai l'occasion de leur parler, de les interviewer. Et je les ai jamais vus aussi... posé et aussi disponible et aussi honnête sur les réponses. En fait, ça, pour le coup, ça a été le gros point positif de ce confinement, c'est que j'ai eu l'impression de vraiment rencontrer les hommes derrière les cuisiniers, ce qui n'était pas toujours le cas avant, et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils étaient avec moi, qu'avec moi, pendant une demi-heure. Enfin, tu vois, j'ai eu l'impression de les avoir tout entiers pour la première fois.
Ouais, pardon, vas-y.
Bah ouais, vous avez dû le remarquer aussi.
Nous,
ouais.
C'est exactement le même sujet qu'on a observé sur Fait Maison, sur notre podcast édition spéciale, c'est qu'on s'est trouvé avec des acteurs qui étaient beaucoup plus disponibles et on a eu des échanges online enregistrés, puis même des conversations off super intéressantes avec notamment en effet ces chefs qui courent partout et on n'aurait jamais pu avoir ces conversations.
Ouais, c'est clair.
Il y a du bon. Et du coup, toi, je crois, t'es confiné en Suisse, donc t'es loin, donc t'as fait des échanges téléphoniques, des visios, mais c'est largement efficace, c'est ça?
Exactement, beaucoup par téléphone. Bah, ça fait bizarre, c'est sûr, de pas se retrouver dans le restaurant en question, parce que souvent on goûte, on visite, on fait un petit tour. Et puis moi, j'aime bien les interviews en face à face, parce que je trouve qu'on va plus facilement dans des sujets intéressants. Et finalement, je me suis rendu compte que le téléphone, pour peut-être des caractères qui sont un peu timides, c'est pas plus mal en fait. On peut vraiment faire passer des beaux messages si on a le temps et qu'on est en confiance et tout. Par téléphone, et puis certains, j'irai leur rendre visite quand ils réouvriront un peu plus tard. Mais en termes d'organisation, ça, c'était pas le plus compliqué, quoi, parce qu'on n'a pas besoin d'être physiquement là. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire.
Et écrire sans goûter, c'est frustrant, ou c'est écrit sur des établissements que tu connaissais déjà, ou tu connaissais déjà les produits? Comment tu as fait justement pour écrire sans goûter?
La plupart, je connaissais déjà. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est la nuance entre critique gastronomique et journaliste gastronomique. Moi, j'écris plus sur pourquoi le mec est devenu cuisinier, quel est son rapport à la terre ou à son terroir, à son passé, tu vois, quelle est sa relation avec le produit, la cuisine, lui-même, etc. Donc en fait, il va me donner des exemples de plats pour que je puisse illustrer et qu'on puisse s'imaginer, mais je n'écris jamais de phrase qui commencerait par voilà, dans ce plat, il y a le relief sur la sauce, et enfin, tu vois, en fait, je décris pas. Donc, ou alors ce sera de leur point de vue, tu vois. Ce que je fais pour Food Pâtisserie, c'est que je lui demande quel goût il a voulu lui donner au dessert en premier, qu'est-ce qu'il veut qu'on ait en deuxième, qu'est-ce qu'il va donner réponse à une texture plus molle, tu vois. Donc mon avis finalement est pas censé rentrer en ligne de compte dans la partie écriture, c'est juste qu'à titre perso, j'adore manger, quoi. Donc ça m'a manqué. Mais pour écrire, si je suis tout à fait honnête, non, ça n'a rien changé.
D'accord.
Et Raphaël, en fait, Philibert, donc, il me débriefait de la discussion que vous avez eue la semaine dernière pour préparer le podcast. Et notamment, il disait que tu n'aimes pas trop qu'on dise que tu es une influenceuse. Mais en même temps, tu es très suivie sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On voit que tu es très active. Tu as même sorti récemment un filtre Instagram pour faire passion pique-nique. et donc, on suppose que c'est quand même une plateforme que tu connais bien. Mm-hmm. Et beaucoup de gens se posent des questions. Bah, comment je dois communiquer pendant cette période-là? Est-ce qu'il y a des choses à adapter, à faire évoluer? Toi, comment tu as vécu cette crise et la gestion des réseaux sociaux? Est-ce que tu as modifié ton utilisation de la plateforme d'Instagram, par exemple? Est-ce que tu publies plus, moins? Tu changes un peu la ligne édito de ton compte Instagram?
Ouais, ça a pas mal changé. Alors, c'est marrant parce qu'au tout début du confinement, vers le 12 mars, quand ça a été annoncé, je m'étais dit, bon, bah, ce qui va manquer le plus, c'est les restos. Moi, j'allais vraiment au restaurant facile 10 fois par semaine. Donc je m'étais dit, bon, bah, en gros, chaque jour, je vais raconter un peu différemment de la façon dont je l'avais fait à la période où j'y étais allée, un restaurant qui me plaît et qui va me manquer. Et donc, à la base, j'étais partie pour faire ça. Et puis, en fait, au bout de 3 bonnes semaines, je me suis rendu compte que ça parlait pas trop aux gens. Enfin, j'avais beaucoup de commentaires pas méchants, mais un peu, nous aussi, on a hâte, mais c'est pas pour tout de suite. Enfin, les gens trouvaient que c'était un peu frustrant. Et puis, pour beaucoup de restaurateurs, en fait, c'est à eux de décider s'ils veulent continuer à parler de leur restaurant pendant cette période ou pas. Donc, c'était pas mon rôle de les mettre en lumière de façon complètement aléatoire. Et les recettes, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Je cuisinais pour les copains, je faisais des apéros et des trucs, mais je m'étais toujours dit, voilà, soit on est axé, voilà, terroir, produit, producteur, pêcheur, éleveur, vigneron et compagnie, et resto, etc. Soit on fait les recettes, et je m'étais toujours dit que les recettes, c'était pas moi. Et puis c'est vrai que ça m'a pas mal amusé de le faire, c'était très nouveau, et ça a plu. Mais ce qui est drôle, c'est que parfois, en fait, la vérité, c'est que je poste des photos avant de goûter, quoi. En gros, je fais la recette, je la prends en photo, je la poste. Souvent, c'est pas la bonne heure, c'est pas les bons hashtags, c'est pas les bons machins, mais ça, j'ai rien compris. Et en fait, on se rend compte que c'est dégueu, quoi.
Et ça, c'est bien à savoir, alors.
Ah ouais. Et ça, du coup, tu le dis après.
En fait, je le dis pas parce que, par exemple, fallait s'en douter, hein. J'ai fait une quiche à la moutarde, mozzarella, choux et sardines. Dégueulasse.
Ah ouais. Je veux dire, déjà,
sur le papier, c'est clair que ça m'attire pas trop. Et donc, du coup, voilà. En dégustation, ça fonctionnait pas très bien. Alors.
Et ben, en dégustation, c'était catastrophique. Mais en fait, c'était déjà posté. Et je me suis dit, bon, on s'en fout, c'est juste une photo. Et en fait, je vois une semaine après que le fooding a reposté la photo avec la recette et tout. Et que tout le monde commente, ah, super, ça a l'air trop bon, je vais le faire. Et je leur ai écrit. sur Instagram. Non, mais faut surtout pas poster ça, c'est vraiment dégueu et tout. Mais entre temps, il y avait eu 12 heures entre les. J'avais pas vu tout de suite. Donc, ils étaient morts de rire et ils m'ont dit, OK, bah, dis-nous, ça m'a amusé, mais c'était tellement nouveau que j'avais jamais fait de chat maison et tout. Donc, il y a eu des gros loupés, ouais.
Mais c'est génial. Je me demande, en fait, si tu es la seule à faire ça ou si tout le monde qui poste sur Instagram, il goûte la recette avant, parce que sinon, c'est la catastrophe, en fait. On met à cuisiner des recettes qui sont pas bonnes.
Ouais, j'avoue.
Ben, c'est peut-être la limite.
J'ai remarqué aussi que tu as une recette phare qui balade pas mal sur ton profil, qui est un pão de queijo. Et moi, en tant que Brésilien, c'est vrai que ça me parle au cœur. Mm-hmm. Est-ce que c'est un produit que tu goûtes à la maison ou tu fais des pão de queijo comme ça pour en goûter l'après-midi?
En fait, les pão de queijo, c'est ma voisine, quand j'étais petite, brésilienne, elle s'appelait Sylvia. Elle s'appelle toujours Sylvia, mais je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Elle m'en faisait tout le temps, en fait. Je passais chez elle en rentrant de l'école et soit elle me les faisait, soit elle me donnait la préparation et je les faisais en 2 secondes et ça me rendait folle. Et en fait, ensuite, j'en ai plus trop mangé de mes 8 ans à mes, quand elle a déménagé à mes 20 ans, j'en ai plus trop mangé. Et à 20 ans, j'ai rencontré Alessandra Montagne qui est devenue une de mes super, super copines. Et elle m'a dit, ma chérie, des pão de queijo, je vais t'en faire et tout. Et j'ai eu une espèce de, mais tu sais, comme dans la chialade, quoi, du retour en enfance, de la Madeleine de Proust, de la voisine et tout. Et depuis, bah, elle m'en fait tout le temps. Moi, j'en fais beaucoup à la maison. J'adore ça. Voilà. Mais sauf que je me rends compte qu'après, il y a un peu le service après-vente à assurer, tu vois. Et donc, je reçois plein de messages de gens, et moi, j'en sais absolument rien, qui me disent, oui, j'ai pas trouvé la farine de tapioca, est-ce que je peux prendre le manioc, est-ce que je peux remplacer le yaourt par ça, et je suis intolérant à je sais pas quoi, est-ce que je peux mettre ça? Et à chaque fois, je suis là,
tu sais pas.
L'Alessandra Montagne.
Mais tu me fais penser, en fait, on a enregistré un podcast il y a quelques mois avec les fondateurs des Marmitons, Christophe Duhamel, et il nous racontait exactement ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, les recettes, c'est ça la beauté du partage et des réseaux sociaux et d'Internet. Ouais. C'est que les gens, ils s'approprient des recettes, ils les modifient au fur et à mesure et ils créent d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la recette originale. Mais c'est ça la beauté de la bouffe, en fait. Ouais. C'est que voilà, il n'y a pas de règles.
C'est clair.
Et si on parle un peu, comme je le disais en intro, des restaurants de demain, parce que évidemment c'est du coup un sujet que tu connais bien, comment tu vois leur avenir déjà à court terme, là, dans les semaines à venir, la réouverture? On dit beaucoup, et c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans ce podcast, que peut-être 30% des restaurants vont mettre la clé sur la porte. Toi, est-ce que tu t'inquiètes pour eux? Comment tu vois leur avenir à court terme? Puis après on parlera du plus long terme.
Bah, j'ai surtout envie de parler de ceux qui vont survivre en se réinventant, parce que les tristes sorts des autres, je peux pas savoir à l'avance, et puis ça me rend trop triste de penser à ça. Mais en tout cas, pour ceux qui vont se réinventer, j'en parle beaucoup avec eux déjà. En fait, c'est pareil pour tous les métiers. Cette période de confinement, c'est une espèce d'accélérateur de petits rêves enfouis qu'on met dans une boîte et puis on se dit je l'ouvrirai quand j'aurai le temps. Et en fait, pour beaucoup, je pense qu'ils vont accéder beaucoup plus vite que prévu à ce qu'ils avaient envie de faire dans le futur. Il y en a beaucoup qui me disent bah on a toujours dit qu'un jour on s'implanterait sur une ferme, ou en tout cas qu'on aurait un lien très direct entre le restaurant et la ferme. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher leur bouclard à Paris, ou en tout cas le faire gérer par quelqu'un d'autre et aller un peu plus loin et avoir leur parcelle maraîchère et leur élevage et leur miel et leurs œufs et leur lait et tout. Donc ça, je trouve ça génial, parce que ça a toujours été ma vision du restaurant du futur, celle qui est la plus durable et la plus sensée et la plus jolie que je puisse imaginer avec ce que j'ai comme clé aujourd'hui. Et c'est cool parce que je pense que pour beaucoup, c'est ce que ça a accéléré, que ce soit chez les cuisiniers ou les pâtissiers qui pensent à faire des chambres d'hôtes, à faire des ateliers cueillettes, des cours de pâtisserie, des salons de thé et tout. Je crois que ouais, ça a été une espèce d'accélérateur de process. Donc, j'espère que c'est ce qui va se passer. Mais moi, je vois bien la restauration de demain comme ça. Peut-être moins une concentration de beaucoup, beaucoup de restos dans les villes, et plus de restaurants d'expérience où on ne va pas juste se mettre à table pour bouffer, même si c'est pour très très bien bouffer, mais pour arriver l'après-midi, faire un tour, comprendre, cuisiner, prendre l'apéro, dormir, faire un cours de cuisine, aller voir un peu ce qui se passe dans la ferme, dans les champs, quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on cueille, parce que ça aussi c'est vachement important, avec qui on travaille pour ce qu'on peut pas autoproduire aux alentours et tout. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de bon sens et à sortir de tout ça.
C'est très intéressant ce que tu dis, mais en même temps, c'est très complexe parce qu'en fait, je suis 100% d'accord avec toi et je pense qu'on aimerait tous voir cette évolution-là. C'est un sujet même qu'on évoquait avec Victor Mercier qui a lancé son resto.
Formidable, je trouve ça super.
Voilà. Et lui, il disait, mais moi, je veux sourcer les produits en France et les plus proches possibles. Mais moi, je suis à Paris. C'est très compliqué pour certains produits. Donc, je me demande si la prochaine étape pour mon resto, c'est peut-être de m'installer en région, être plus proche des producteurs. Donc ça, je suis 100% d'accord, c'est une super démarche. Mais de toute façon, la densité populationnelle qu'on a à Paris, ça ne va pas bouger. On va dire Paris, même si des gens qui partent en région, Paris aura toujours du monde, on aura toujours besoin des restaurants. Et ces restaurants-là ne vont pas pouvoir avoir ces types de modèles, en fait. Donc il faut quand même se réinventer avec les moyens du bord.
C'est clair. Bah, Paris, je me demande si finalement ce nouveau format où on ne prend pas de réservation, où on prend emporté, on fait un peu plus sur le pouce et à la bonne franquette, ça va peut-être reprendre un peu de terrain. Je sais pas, c'est un peu la grande question là de l'économie des restaurants gastronomiques, que ce soit dans les palaces ou les restaurants indépendants. C'est toujours la question qui se pose. Est-ce que finalement, ça rapporte tellement plus de sous d'avoir un restaurant gastronomique qu'un bistrot? Je crois pas.
Non.
Donc, je pense que ça, c'est sûr. Ils vont peut-être un peu plus se poser des questions. Et puis, mais c'est vrai que Paris, je suis d'accord, on est nombreux, mais je me demande quand même s'il n'y a pas trop de restos. Et si finalement on n'oublie pas trop, moi j'ai toujours cette culpabilité d'oublier des restaurants. J'ai toujours peur de me dire oh là là, ça fait trop longtemps que je suis pas allée dans celui-là, il va croire que je l'aime plus. Mais en même temps, il y en a plein de nouveaux. Et puis quand on aime un nouveau, on veut y retourner et tout. Et c'est dur parce que quand on aime très fort ce monde, et ben on, au bout d'un moment, on peut pas tout manger. Il y a des limites quand même à poser. Et c'est vrai que, en tout cas, moi ça me ferait du bien qu'il y en ait moins. Et qu'on puisse y aller mieux.
Et plus globalement, comment tu vois la pré-crise au-delà de la restauration, je sais pas, quelles leçons toi tu tires de cette crise? On en a un petit peu parlé, même sur ta façon de travailler, comment tu sens les choses pour l'avenir?
Je pense que dans tous les secteurs, mais je parle surtout de celui que je connais, on va arrêter de toujours s'attacher à cette idée qu'on est obligé de faire une réunion tous ensemble, bien assis pendant 3 heures au bureau ou dans un café, parce que si on se rejoint pas tous, et ben on peut pas être aussi efficace et on parle pas assez bien. Je crois que là vraiment on a compris à quel point les réunions par téléphone fonctionnaient très bien. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on sera plus efficace et puis on limite les transports. Mais après, je pense que le travail va reprendre petit à petit. Je vois pas de gros changements, en tout cas sur la presse ou sur la télévision ou enfin tu vois sur les médias de façon générale. Je suis pas sûre que les choses changent fondamentalement, mais ce qui est certain, c'est que comme toutes les périodes d'après crise, on va assister à des grosses créations de nouveaux formats et de nouvelles manières de faire. Et je pense que dans un océan de troubles et de panique, il va y avoir des belles choses qui vont se monter et ça va être très intéressant à observer. Mais ça, c'est évidemment quand on prend la partie positive de la crise, parce que c'est sûr que économiquement parlant, ça va être catastrophique. Mais ça,
et toi, est-ce que tu as profité de cette période peut-être pour réfléchir à des nouveaux projets, des choses que tu aimerais lancer maintenant ou après la crise?
Alors moi, j'aime pas trop prévoir. Donc ça n'a pas changé. J'ai plus fait le tri entre ce que j'aime vraiment faire. On se rend toujours plus compte de ce qui nous manque réellement quand on y a plus accès. Donc ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment vraiment ce que je faisais. Ça, c'est une bonne chose, que ça me rend très fort. Mais sinon, des projets, ben, j'en ai toujours eu et ils sont toujours là, mais je veux pas faire les choses trop vite. Je crois que c'est très très important de prendre son temps. Moi, j'ai 29 ans. Je serais ravie si les choses arrivaient, mais d'un autre côté, il faut en garder pour la suite. Donc, je me suis pas fixée d'objectifs précis, mais oui, bien sûr, j'ai des envies. Ouais. Après, dans ce milieu, c'est toujours les farandoles de oui, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on mette ça en place, on pourrait faire ça, je vais te présenter un tel et tout. J'ai appris à plus m'emballer parce que la première année, je croyais à tout. Je me disais, mais c'est fou, si j'écoute tout ce qu'on m'a dit. Je vais exploser. Et en fait, faire super attention. Moi, j'ai tendance, quand on me dit quelque chose, à me faire un petit Disneyland dans ma tête. Donc, j'ai appris à me calmer quand même. tant que c'était pas signé noir sur blanc.
Est-ce qu'il y a des univers particuliers qui t'attirent en fait, que si on peut-être tu aimerais passer derrière les fourneaux, ou ça reste quand même?
Non, alors cuisiner, c'est pas quelque chose qui, enfin ouvrir un restaurant ou même une ferme, c'est pas quelque chose que je prévois de faire pour l'instant. Un rêve que j'aurais, ce serait de partir en reportage un peu partout, pas partout, mais dans quelques pays du monde, et comparer en fait des choses entre elles. Par exemple, dire, j'en sais rien, mais on a tous sous une forme ou une autre un pain ou un fromage ou une boisson ou peut-être un petit déjeuner tout simplement dans le monde, et en fait comparer l'approche de ces différents produits selon les cultures et les terroirs et les goûts et les typicités de caractère et tout. Donc faire du reportage en voyageant et tout, c'est un truc que j'adorerais, mais pour l'instant je pense que c'est encore complètement rêveur, mais ouais, ça me plairait bien. Mais en revanche, non, passer derrière les fourneaux, pas trop. Après, je trouve que en télévision, il y a encore plein de choses à faire dans la bouffe. On voit beaucoup de jeux, de concours et tout en télé, mais je trouve que c'est plutôt les Netflix et un petit peu Canal Plus qui sont bons sur les docus. Donc, je pense qu'il y a encore de la place là-dessus. Et puis, il y a encore de la place pour un vrai talk show 100% bouffe. Donc, ça, j'adorerais aussi. Enfin, tu vois, il y a encore plein de trucs à faire qui n'ont pas été faits. Et j'ai mes petits rêves à droite, à gauche. Et puis, je suis patiente.
Du coup, Raphaël, on approche de la fin du podcast. Si on a une question rituelle dans cette édition spéciale qui est plus personnelle, c'est comment tu vis le confinement et maintenant le déconfinement? Est-ce que tu es encore confiné en Suisse, comme on en parlait tout à l'heure? Et est-ce que tu aurais des bons plans, des bons plans de choses qui t'inspirent en ce moment, que tu écoutes, typiquement des podcasts, par exemple, ou des sujets comme ça, des livres?
Bah, moi, j'ai beaucoup joué au Scrabble. Alors, je ne sais pas si ça compte.
ça peut.
Voilà, j'adore. Je trouve qu'on n'y joue pas assez. Et ça a été l'occasion. Non, mais surtout, c'est tout l'univers autour du Scrabble. C'est jouer au Scrabble avec un petit verre de vin, avec un gâteau dans le four, avec un petit fond de Neil Young. Enfin, tu vois, c'est...
Ah, ça fait plus rêver, ça, déjà.
Voilà. Et moi, je trouve que... On joue jamais au Scrabble quand on est stressé, donc à partir du moment où on sort la boîte et où on sort les lettres et tout, c'est qu'on a l'esprit doux et tu vois, allongé, quoi.
On prend son temps, ouais.
Ouais, exactement. Et moi, j'adore ça, de plus trop voir le temps passer et tout. Donc je me suis beaucoup fait des petites fins d'après-midi, début de soirée comme ça avec mon amoureux. Bon, les lectures, c'est pas très original. J'ai relu Romain Gary parce que ça fait partie aussi des choses qu'on se dit qu'on fera et puis en fait on le fait jamais, et puis quand on part en vacances, ben on se dit bon, quand même je vais emmener un auteur un peu plus récent et tout, donc ça m'a fait du bien aussi. J'ai pris des bains, j'adore le podcast de Zazie sur Mamie Jeanne, donc pour ceux qui l'ont pas écouté, ça s'appelle À la recherche de Jeanne, c'est extraordinairement beau.
Ouais.
Vous allez pleurer, hein, c'est très triste, mais c'est très 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 beau. Elle a un talent fou, donc ça, je ne peux pas le conseiller assez. Et puis voilà, pour les meufs, mais c'est vrai que de pas s'être maquillée pendant 2 mois, ça a été un gros gros kiff.
Ouais, et puis
grossir un petit peu, c'est important quand même. Le mec qui ressort aminci de ce confinement, il y a un problème quand même.
C'est possible, c'est clair. Mais ouais,
j'ai pris 3 kilos, donc je pense que je n'ai pas de problème.
Voilà.
J'ai une petite question, Raphaël. En fait, tu parles podcast. Est-ce que c'est un format qui te plaît? Tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu t'es jamais posé la question de peut-être créer ton propre podcast?
Mais si, bien sûr, je me suis posé la question au début. Et puis en fait, très vite, c'est cette réflexion bête, alors qu'on le sait qu'il y a de la place pour tout le monde et que... Il n'y aura jamais trop de podcasts, mais je me disais, oh, est-ce que je vais apporter quelque chose de différent? Est-ce que j'ai suffisamment de choses à dire pour le faire et tout? Mais c'est vrai que j'adore ça. Je trouve que c'est un format qui est très libre, qui est très agréable. Moi, j'adore en écouter dans le train, alors qu'au début, je ne pensais pas être hyper friande de ça et je suis complètement tombée dedans. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'en effet, ça pourrait être un projet, mais pour l'instant, j'adore écouter ceux des autres.
Bah écoute, on a plein d'idées et peut-être on va te contacter après l'enregistrement pour partager certaines idées qu'on a eues. Peut-être
génial.
Que ça va.
C'est clair.
Voilà.
Avec plaisir.
Bah merci Raphaël, on arrive à la fin du podcast, c'était cool de t'entendre.
J'ai juste une dernière question Raphaël, pardon, qui sort de notre trame, mais c'est une question que j'avais, qu'il fallait te poser, parce que je veux juste comprendre ça, c'est que ton blog en randonnion, il n'existe plus en fait, c'est comme ça que on t'a découvert en fait, mais aujourd'hui il n'est plus en ligne, c'est ça?
Si, je paye toujours OVH 42€ je crois par an pour qu'il soit en ligne, mais non, j'écris plus dessus, j'ai plus trop le temps, ça m'a beaucoup amusé. Entre 2014 et 2016 ou 17 à peu près, parce que c'était en plus de mon job, parce que je débarquais un peu dans ce monde et que ça me permettait de raconter mes aventures et mes découvertes. Mais c'est vrai que je l'ai jamais vraiment monétisé. Et puis aujourd'hui j'ai moins le temps. Et puis je crois que la vérité c'est que j'ai jamais assumé le mot blogueuse.
Ouais.
Ça m'a toujours hérissé les poils. et puis c'est vrai que bon aujourd'hui j'ai Instagram, c'est suffisant tu vois, mais si il existe toujours et je l'aime bien.
Et écoute, merci Raphaël, c'était cool d'échanger avec toi. À très bientôt.
À bientôt. Salut.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.